on en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45
sur LFM.
Bonjour à tous, c'est Manon sur LFM Radio. Il est tout juste 11h et vous écoutez On en parle, l'émission qui décrypte les phénomènes de société chez les jeunes. Du 11 au 13 mai, vous avez été nombreux à passer les épreuves de spécialité pour le bac et à vous lancer dans un marathon de révision pour les prochaines épreuves, dont notamment celle de philosophie le 15 juin et le redouté grand oral entre le 20 et le 1er juillet. On n'oublie pas non plus les épreuves écrites qui se tiendront entre le 14 et le 24 juin. Donc il y a une étude qui a été réalisée par OpinionWay qui dévoile que 50% des lycéens déclarent souffrir de troubles du sommeil liés au stress. Les facteurs peuvent être nombreux, des matières où on n'est pas très bon, la peur d'échouer au bac, de ne pas avoir révisé. À cela se rajoute le Covid qui a bouleversé le planning du bac puisque les spécialités ont été décalées et vous avez été nombreux à passer ces épreuves il y a quelques semaines déjà. Alors, comment bien se préparer pour les prochaines épreuves et surtout, comment gérer son stress? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Sena Tazguin, qui est en service civique dans l'association Sigma F, qui est basée à Mantes-la-Jolie. Et avec leur initiative Objectif Bac, Sigma F a pour ambition de promouvoir la réussite scolaire et d'offrir des solutions d'accompagnement pour les jeunes. Bonjour Sena Tazguin.
Bonjour, merci.
À ses côtés, nous accueillons aussi dans les locaux d'LFM Véronique Le Gall, sophrologue à Mantes-la-Jolie, qui vient nous parler des différentes manières de gérer son stress à l'approche du bac pour être plus, non seulement plus serein avec les épreuves, mais aussi apprendre des techniques simples pour mieux gérer son stress. Bonjour Véronique Le Gall.
Bonjour Manon.
Merci en tout cas d'être là toutes les deux pour cette émission qui va être très complète, je pense, entre les techniques pour réussir son bac et surtout pour déstresser face aux épreuves. Pour commencer l'émission, on va d'abord présenter l'association Sigma F, puisque le projet part d'une très belle histoire à la base, n'est-ce pas, Sena?
Oui, effectivement. Donc, les liens de solidarité, ça sera vraiment le mot d'ordre pour expliquer l'association. En effet, depuis 2012, des révisions ont été lancées bénévolement par un professeur de physique, Darrell Bokoum, qui a réuni quelques étudiants pour préparer leur baccalauréat et réviser notamment la physique, matière redoutée des élèves. Et par la suite, ces mêmes étudiants qui ont bénéficié de l'aide de ce professeur de physique ont eu le déclic de se dire que eux aussi à leur tour allaient aider les générations suivantes. Et donc de 2012 jusqu'à 2016, des révisions formelles, informelles ont été organisées sans forcément avoir le statut d'association, mais c'était vraiment des liens de solidarité et de l'aide de ces mêmes jeunes-là qui avaient bénéficié. En 2016, la première version de l'association a été nommée avec Révision Solidaire. Et par la suite, en 2017, c'était vraiment la genèse de SIGMEF en tant qu'association. Et depuis 2017 jusqu'à présent, plusieurs pôles existent et donc on en parlera en détail, mais notamment le pôle accompagné qui accompagne les jeunes pour pouvoir préparer le baccalauréat, mais pas seulement, aussi faire des remises à niveau avec des programmes ou en début d'année avec des SIGMEF par exemple en mathématiques et bientôt en français. Et aussi en physique. Deux autres pôles existent comme initiés pour pouvoir faire gagner de l'éloquence aux jeunes mantois. Et le dernier pôle, c'est le pôle informé qui permet donc de sensibiliser sur les études supérieures et les orientations possibles.
Et c'est effectivement une association qui a énormément évolué depuis sa création. Comme tu le disais, c'est une histoire que je trouve très belle, puisqu'à la base, l'initiative Objectif Bac, elle est née en 2012 avec, comme tu disais, des terminales qui passaient leur bac. Et du coup, Darrell Bokoum, qui était le professeur de physique, il est toujours à l'association aussi, si je me trompe.
Oui, il est toujours à l'association. Il donne parfois cours et notamment, on a un comité où on discute autour de ce qu'on peut mettre en place. Donc en fait, ces membres fondateurs, même s'ils ne seront pas présents, je dirais de manière permanente, ils seront toujours là pour pouvoir aiguiller les prochaines actions qui seront lancées et conseiller sur l'orientation qu'on peut leur donner.
Et là, dans l'association, vous êtes actuellement dans pleine préparation du bac avec l'initiative Objectif Bac. Ça fait des mois d'ailleurs que vous préparez ça, puisque comme tu disais à la base, l'association, l'objectif c'était de préparer au bac. Donc ça a commencé un petit peu avant les épreuves, etc. en 2012. Mais maintenant, vous commencez bien à l'avance.
Oui, c'est bien ça. Au tout début, ça devait se dérouler au mois de mars, mais cette année en particulier avec les événements sanitaires, ça a été décalé au mois de mai. Mais normalement, on avait commencé donc mi-janvier. mi-janvier jusqu'à mars, on devait les accompagner, mais vu que ça a été décalé, on a reprolongé la date de préparation jusqu'à fin avril. Donc on a eu plusieurs phases, une phase 1 où on mettait les élèves dans le bain, on leur expliquait, vraiment c'était des reprises de cours. Une deuxième phase où c'était une continuité pour pouvoir terminer le programme. Une phase 3 où on a commencé les types bac. Donc en fait, la logique étant, en premier on voit tous les cours. Et par la suite, on commence à faire des types bac parce que avoir des cours, c'est intéressant, mais l'essentiel, c'est de s'entraîner pour pouvoir être plus fort le jour de l'examen. Et donc là, on vient tout juste de terminer la. Du coup, maintenant, on a eu une phase en plus à cause dû au fait que ça a été rallongé.
Ouais.
Mais du coup, on a fini là la phase où on faisait des types bac et on l'a fini la semaine dernière.
Pour contextualiser, c'est vrai qu'il y a des épreuves qui ont été déplacées, qui devaient être en mars. C'est les premiers oraux d'ailleurs, c'était les spécialités qui étaient censées être en mars et qui ont été décalées du coup sur la semaine du 11.
Oui,
du 9,
c'est bien ça.
du 9 mai.
Voilà, c'est ça.
c'est ça. Alors aujourd'hui, on va aussi parler du stress, qui est un gros sujet d'ailleurs pendant le bac, puisque énormément de terminales se sentent stressées à l'approche des épreuves, pendant les révisions. Et on va notamment développer aujourd'hui ce sujet grâce à Véronique Le Gall, comme on le disait, qui est sophrologue à Mantes-la-Jolie. Et je vous propose d'abord d'écouter un micro-trottoir qui a été fait auprès des terminales avant de vous faire réagir sur comment ils se sentent.
Je suis plutôt stressée pour les épreuves de spécialité et ensuite le reste des épreuves, je pense que ça va aller.
Qu'est-ce qui te stresse le plus ?
Rien connaître pendant les épreuves ou être complètement à côté de la plaque, voilà. Oui, parce qu'en fait, comme le sujet est... On ne peut pas le prédire en avance. Je ne sais pas à quoi m'attendre, même si je sais que je serai sûrement prête.
Un petit peu, je pense que c'est normal, mais je pense que je suis un peu préparée, donc ça va.
Bah, ça va. C'est l'anglais, parce que je ne sais pas trop bien parler. Mais j'étais obligée de choisir la matière.
Et qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Est-ce que c'est les oraux, les écrits ?
L'oral, parce qu'à l'écrit, je peux m'en sortir. C'est plus l'oral, on n'a pas beaucoup parlé en anglais à l'oral, du coup, c'est compliqué.
L'espagnol ? À l'écrit, j'ai eu 10 sur 20, donc je pense que...
Bah, au vu de mes spécialités, comparé aux autres, j'ai moins stressé parce que j'ai pas mis 1000 dates à apprendre comme en AGGSP ou plein de notions comme en SES, mais un petit peu, vu que j'ai un travail à rendre en cinéma, là, justement, je fais une pause pour faire ça, mais après, vite, je dois rentrer finir le montage. Donc c'est un peu ça qui m'angoisse. Franchement, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, donc oui, du stress, j'en aurai forcément, mais après, il faut savoir le gérer aussi. Je suis le stress en personne.
C'est quoi qui te fait stresser du coup ?
Ah non, mais moi je suis stressée de la vie, je stresse dans tout,
c'est tout.
Tout te fait stresser ?
Ouais, tout, tout.
LFM 95.5.
Alors on se retrouve dans On en parle sur LFM Radio avec l'association Sigma F et Véronique Le Gall qui est sophrologue. Véronique Le Gall, quelles sont vos premières réactions en écoutant ces terminales ?
Quand ça m'a fait sourire parce que quand j'entends toutes ces personnes qui disent je suis stressée, de toute façon je stresse tout le temps. Alors d'un côté c'est un peu inquiétant, le mot est un peu fort, mais c'est vrai d'entendre toutes ces angoisses, toutes ces peurs. On se dit, oh là là, ça doit être, les nuits doivent être courtes et le quotidien vraiment difficile. Donc, c'est vraiment important d'apprendre très jeune, je dirais, à savoir gérer le stress. Parce que plus on va savoir le gérer, je dirais, tôt dans sa vie, plus tout au long de sa vie, on arrivera à le gérer et on apprendra mieux les événements de la vie. Hein. Donc, c'est vrai que, parce que le stress, il peut survenir là sur des examens, mais dans le futur, il peut intervenir également pour trouver un travail, dans la vie de famille. Là, il y a une jeune fille qui disait, moi, je suis stressée, de toute façon, je suis une stressée de la vie. Donc, voilà, donc c'est vraiment important, je pense, d'arriver à bien gérer ce stress.
Et vous avez complètement raison, parce que, en fait, là, on parle du stress par rapport au bac, qui est l'une des grosses étapes, on va dire, en termes d'examen, etc. Mais des moments stressants, on va dire qu'il y en aura d'autres dans la vie. Il y en a peut-être eu de manière précédente, comme la dernière jeune fille qui était une stressée de la vie. Et justement, les techniques que vous allez nous dévoiler en deuxième partie vont permettre non seulement de pouvoir aider les jeunes qui passent les examens, mais aussi dans la vie, bien entendu, prochaine, et que ce soit dans la vie après le bac, quoi. Et toi, Sena, du coup, quelles sont tes réactions par rapport à ces micro-trottoirs ?
Du coup, j'ai eu l'impression de me reconnaître d'il y a 2 ans quand la fille elle a dit « je suis le stress en personne » parce qu'il est vrai que moi aussi, j'étais une personne énormément stressée. Et un tout petit événement pouvait me mettre dans des états d'angoisse. Mais par la suite, ce qui en ressortait, c'est que voilà, c'est surtout le fait de ne pas connaître, de avoir l'impression de ne pas connaître, ce qui m'arrivait aussi. Donc je comprends totalement et je ressentais la même chose, donc je me suis plus reconnue qu'autre chose.
L'inconnu un petit peu, c'est oui. Voilà, des épreuves, etc. Ça te stressait un petit peu, c'était
oui,
ça?
Oui, c'est bien ça.
Et justement, on va parler du métier de sophrologue, Véronique Le Gall. Est-ce que vous pourriez nous introduire ce métier?
Écoutez, c'est un métier d'accompagnement. Hein. Nous, on va, en tant que sophrologue, on est des thérapeutes, on va être là pour accompagner les personnes, les guider hein, vers une solution par rapport à leurs problématiques. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc, de la gestion du stress par rapport aux examens. Donc on va, en tant que sophrologue, les aider à mieux gérer leur stress, leurs angoisses, leurs peurs, leurs inquiétudes. Leur perte de moyens, enfin la peur de l'échec, hein, qui peut et tout ça peut entraîner une perte d'estime, une estime de soi. Donc, à travers des séances qui durent généralement 1 heure, on va les aider grâce à des techniques, grâce à des exercices, à mieux gérer leur stress, leurs angoisses. Hein, donc, des exercices qui vont leur permettre de retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit, parce que tout est lié. Hein, donc, quand on est stressé, quand dans sa tête on appréhende. Eh ben, il y a des répercussions physiques. Hein, donc vraiment là, on va travailler sur les deux à retrouver un équilibre. Et c'est grâce... Alors c'est pas seulement une technique de relaxation, hein, c'est vraiment grâce à des techniques de relaxation que la personne va apprendre à mieux se connaître et donc à mieux gérer ce qui lui occasionne son stress. En sachant mieux ce qui lui occasionne son stress, elle va se transformer, hein, c'est-à-dire qu'elle va aller développer, puiser en elle des ressources, des capacités et les faire grandir. Donc nous, vraiment, on a un travail d'accompagnement pendant une séance où on va faire des exercices qui sont basés sur la respiration contrôlée, hein, vraiment inspirés du yoga ou de la détente musculaire pour détendre des tensions qu'on pourrait avoir physiquement. Et également, on va travailler sur des images, des visualisations positives pour justement amener la personne, par exemple là, dans le cas du bac, à se projeter le jour du bac et à les amener à se voir avec des capacités qui leur sont nécessaires.
Se concentrer sur ses capacités aussi
fait.
Et
oui.
Sur la respiration qui est quelque chose de naturel.
Oui.
Mais au final, on se rend compte que c'est pas si naturel que ça parce qu'on le contrôle beaucoup, cette respiration, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Je dirais qu'on ne fait plus attention à... Enfin, des choses qui nous paraissent totalement naturelles comme la respiration ou comme la manière d'être, de vivre, on ne fait plus du tout attention à ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'à travers la sophrologie, on va se reconnecter à soi-même, se reconnecter à son corps, prendre conscience de ce que l'on est, de qui l'on est et de ce qui nous fait du bien. Et comme vous le disiez tout à fait, maintenant, on respire, mais... mal quelquefois et il faut juste la respiration est primordiale dans la gestion du stress parce que voilà, elle permet de se canaliser, de gérer les émotions, de se concentrer également. Donc il faut vraiment arriver à poser un souffle, je dirais, pour pouvoir mieux gérer son stress.
Et justement, on parle souvent de stress, mais il est important de bien comprendre ce sentiment. Qu'est-ce qui fait qu'on stresse et qu'est-ce que ça déclenche dans le corps? Enfin, en résumé, comment naît le stress et comment est-ce qu'il se développe?
Le stress, c'est à la base, à l'origine, le stress, c'est une réaction biologique et psychique de l'organisme face à son environnement. Alors, je vais remonter très très loin. L'homme de Cro-Magnon, il entendait des bruits, il entendait des animaux sauvages. Plouf, l'organisme se mettait donc en alerte face à son environnement et hop, il savait qu'il fallait qu'il court parce que là, il allait avoir une attaque. Bon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est hop, mon corps va réagir à son environnement, donc à son bac. Par exemple, là, on est sur le baccalauréat, donc il réagit à ce qui lui arrive, à son quotidien. Et il se met en alerte parce que voilà, ça lui crée des angoisses. Il ne dort pas, il a peur de ne pas réussir, il a peur de rater et tout ce que cela va entraîner par la suite par rapport à sa vie d'étudiante et vie professionnelle par la suite. Donc le stress, il peut arriver, donc, comme je vous le disais, par des angoisses, de l'échec, par un sentiment d'épuisement également, d'inquiétude, d'angoisse. Et en fait, le stress, donc c'est le cerveau qui se met en alerte et il cherche à lutter contre cette émotion, enfin ce sentiment, et il va mettre il y a des petites choses qui vont se mettre en tension. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas trop se laisser envahir par le stress. Parce que bon, le stress, c'est normal, parce que ça permet d'agir, ça permet d'avancer. Comme je vous dis, l'homme de Cro-Magnon, bah, hop, il se met entre guillemets, voilà. Ce stress, ça lui sauvait la vie.
Et comme vous le dites, c'est quelque chose d'inné, en fait, le stress. C'est un sentiment normal, même les animaux, d'ailleurs, le ressentent.
Le ressentent, bien sûr. Et après, selon chaque personne, selon son histoire, selon son niveau, selon ses expériences, va avoir une meilleure ou non gestion du stress, ou être plus ou moins réactif au stress. Donc le stress en soi n'est pas une mauvaise chose, parce qu'elle permet d'avancer, elle permet de peut-être décupler des capacités, mais il ne faut pas se laisser envahir, parce qu'elle peut aussi complètement inhiber la personne et perdre totalement confiance en soi, perdre l'estime de soi et ne plus savoir de quoi elle est capable. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu en sachant l'apprivoiser, ce stress, en se disant bon bah voilà, je sais que je suis plutôt de nature très stressée, je stresse, je suis stressée de la vie, bon bah comment je peux faire pour ne plus être stressée de la vie, ou en tout cas m'appuyer sur mon stress pour permettre d'avancer et justement en faire une force.
Séna, toi là t'écoutes bien, parce que justement tu disais tout à l'heure que lorsque tu passais le bac, enfin t'étais beaucoup stressée et t'avais tendance à être une stressée de la vie comme la jeune fille dans le micro-trottoir.
Oui, du coup, et en écoutant, en vous écoutant, du coup, je me suis souvenue d'un entretien que j'avais eu avec mon professeur de la préparation qui se déroule à Saint-Ex, de la préparation Sciences Po. Lui, donc, en fait, m'avait convoqué, enfin, parce que en fait, tout le monde s'était rendu, enfin, les professeurs s'étaient rendu compte que j'étais stressée, que voilà. Ça n'avait
ça se
pas
ça,
et en plus ça n'avait pas lieu d'être, parce que c'est du coup ça avait atteint un stade un peu je dirais bloquant. C'était plus un élément motivateur mais bloquant. Du coup, il m'avait expliqué la même chose, il m'avait dit que je devais m'appuyer sur le stress, et suite à cette réunion, ben justement, ça a été un tournant, parce que par la suite, j'ai arrêté de stresser, parce que je me suis rendu compte que le stress, si je le prenais et que je le prenais comme une force d'appui, comme un élément motivateur qui va me permettre de donner le meilleur de moi-même, ben ça allait être beaucoup plus productif ou beaucoup plus performant que si je commençais à stresser pour, je ne sais, parce qu'il y avait un rendu ou autre, alors que finalement ça pouvait tout simplement être un élément moteur dans la réalisation des tâches. Donc ça, moi je pense que l'élément tournant, ça a vraiment été le tête-à-tête que j'ai pu avoir avec Monsieur Taurine, mon professeur, qui m'a accompagnée.
Et qui t'a un peu changé la vie du coup par rapport au stress.
Oui, et depuis du coup je stresse plus comme avant, et je dirais même que même lorsque j'ai des échéances qui approchent et qui sont graves, je ressens plus cette angoisse, mais c'est plus dans le sens, tu dois donner le meilleur de toi-même. De toute façon, que tu stresses ou que tu ne stresses pas, le résultat ne va pas changer, et au contraire, ça va l'amplifier, enfin, ça va empirer les résultats, parce que le stress rend aveugle. Et quand on est aveugle, on n'est pas au maximum de ses capacités.
Et ça paralyse, comme on le disait tout à l'heure. Et ça illustre très très bien ce que Véronique Le Gall disait à l'instant, justement. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation, Véronique Le Gall, très stressés en ce moment, notamment à l'approche des examens ou du futur, etc.
Moi, j'ai effectivement, je note beaucoup d'angoisse chez les jeunes. Alors des angoisses, oui, par rapport aux examens. Donc ça, j'en ai depuis des années, par rapport, peur de la prise de parole en public, peur de tout oublier. Donc oui, mais une peur aussi, une pression très forte sur l'avenir. Si je rate mon... pas forcément par rapport à cette capacité, mais se mettre une pression par rapport à l'examen en lui-même. Et se dire, si je rate cet examen, c'est comme s'ils rataient leur vie. Et justement, en se mettant cette pression, on part, je dirais, en étant trop négatif. Oui, c'est important, mais il faut aussi savoir prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc oui, comme vous, par rapport à votre question, oui, il y a un stress, oui, par rapport à l'examen, par rapport à ses capacités, par à l'examen lui-même et ce qu'il va lui apporter par la suite, mais également, effectivement, des peurs par rapport à la vie en général et ce que l'on va ce qu'ils vont devenir.
La peur de l'échec.
La peur de. Ouais.
C'est vrai que ça, c'est du coup, c'est un sujet qu'on a abordé dans une précédente émission qui parlait des angoisses par rapport au futur et on abordait notamment les angoisses que les jeunes et même les adultes peuvent avoir sur le futur, sur la peur de se projeter, etc. Et là, du coup, pour se reconcentrer un petit peu sur les révisions, c'est vrai que peut-être toi, Séna, tu envoies aussi des terminales en ce moment qui sont dans ce stress.
Oui, du coup, au sein de SIGMEF, on accompagne beaucoup de jeunes. Et donc, les élèves que moi, j'accompagne, j'interviens donc en sciences économiques et sociales, donc en SES, en spécialité. Et les élèves que j'ai pu avoir jusqu'à présent étaient... En fait, je dirais que la nature du bac a aussi changé la nature du stress. Parce que maintenant, ce n'est plus le fait d'avoir le bac ou ne pas avoir qui le stresse, c'est plus, oui, mais je dois viser l'excellence, je dois réussir, je dois viser la mention, parce que donc, c'est vraiment la mention qui met, je pense, les élèves dans des situations de stress extrême. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a un climat donc, de collectif, de solidarité, donc d'échange, et que l'intervenant n'est plus comme un professeur où vraiment donc il y a une barrière qui se crée, voilà. Donc vu qu'on est plus dans une approche fraternelle et solidaire, ce qui est bien c'est que les élèves peuvent évacuer leur stress en nous parlant, et vu que les intervenants sont tous dans les études supérieures, sont déjà passés par ce cap là, donc on peut leur expliquer comment nous on avait vécu, comment ça s'est passé, et même le fait de se dire qu'on vient pour réviser, je pense que ça alourdit le stress, parce que le stress, moi, ce qui me stresse le plus, ce qui m'aurait stressé le plus...
Ce qui me stresse dans le stress.
Voilà, ça aurait été le fait de ne pas commencer. Parce que quand on ne commence pas, ça paraît très grand. Mais dès qu'on a commencé, dès qu'on est dedans, dès qu'on vient réviser, dès qu'on échange avec des intervenants, je pense que le stress s'allège. Et à force de faire des efforts, on devient de moins en moins stressé. Mais parfois, ça peut être le contraire. Mais la majeure partie des élèves que j'ai vus, plus ils travaillaient, moins ils stressaient.
Et je pense que c'est là tout l'intérêt aussi de l'association, ou même de tout simplement créer des groupes pour pouvoir réviser, parce qu'en fait, ça permet aussi de débloquer un petit peu le stress qui peut être un peu paralysant dans les études. On écoutera aussi à des personnes, effectivement, qui ont du mal enfin qui vont procrastiner aussi dans les révisions parce qu'ils sont un petit peu paralysés par ce stress et ils vont se dire ok bon je ferai ça demain. C'est peut-être voilà, Véronique Legal, vous hochez la tête. Est-ce que c'est un comportement qui revient aussi beaucoup?
Bah, le fait de faire la politique de l'autruche, enfin entre guillemets, de se dire ben j'ai le temps ou oh ben pas aujourd'hui, donc il faut pas avoir peur, il faut se confronter à la réalité et puis y aller quoi, enfin et puis rester positif aussi, enfin voilà, se dire bah je vais y arriver et faut commencer et peut-être se faire un petit planning de révision. Je pense que ça peut aussi enlever un peu de stress en se disant bah voilà, je me fais un petit planning, un rétro-planning jusqu'aux épreuves. Ça peut aussi permettre d'enlever un peu cette angoisse des révisions.
De se préparer un petit peu à l'avance.
Oui.
En tout cas, merci Véronique Legal et Séna Tasguin pour cette première partie. On développera notamment en deuxième partie de On en parle, les techniques et les solutions pour mieux gérer son stress grâce à la sophrologie et aussi des astuces pour bien réviser et passer ses épreuves du bac. Avant ça, on va faire une petite pause musicale et s'écouter My Stress de NF. Donc moi, je vous dis à tout de suite sur LFM Radio 95.5.
Les incontournables de la culture hip-hop s'écoutent sur LFM 95.5.
Yeah. Some days I just wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see or have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Late nights, staring out the window doing 85. Got my state of mind, yeah. Walking on that gray line, hoping that my stress dies. It's like I hate it, but I love it at the same time. Pressure pushing me from all sides. Insecurities of all kinds, yeah. I'm a hostage to my own pride. Most important things in life to me are things I know I can't buy, yeah. Hits me in phases, I'm not in the mood yet to meet another stranger. I'm not in the mood yet to have a conversation and talk about a bunch of things that I don't feel amazed with. Getting too close to me, woo, could be dangerous. I don't like the energy, I leave the situation. All this negativity that I can't get away from. All this negativity I think I need a break from. I'm thankful, but some days I just wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see or have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Yo, this life got my head spinning. Wonder what I'd do if I knew these were my last minutes. Wonder if I had a week to live, would I stay tripping? Wasting every day that I had left trying to sell tickets. Or maybe call my dad, say I love him and laugh with him. Take a couple days and get away from this fast living. I don't love my work the way I did, man. This whole business has got me feeling jaded. Friends I had, now they act different. It's all switching, whoa, yeah. It's pretty hard to watch things you used to love turn to things that you wish you forgot. Real moments that make you question the things that you want. Got me growing mentally but stressing me out till I drop over the top. It's where I live on a daily basis. I always find a way to find the bad in good situations. It's sad, huh? Yeah, I live my life on the edge. Don't want the meds, I'm just trying to get relief from my stress, you know. Some days I just wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see or have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. These stress levels are not healthy. I'm waiting for that call saying records are not selling. I wonder when this all disappears and they forget me. Will I feel like I found who I was to be more empty? I wonder, was I wrong thinking this is where God led me? Or did I get involved with something that was too heavy? I drive until I'm lost and just sit in my car yelling. My inner critic talks. I'm just hoping that God helps me to stop stressing. Yeah. Some days I just wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see or have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress.
On en parle. Sur LFM.
Et on se retrouve sur LFM Radio 95.5 dans l'émission On en parle, toujours en compagnie de Véronique Le Gall, sophrologue à Mantes-la-Jolie, et Sénat Asguin qui vient représenter l'association Sigma F. Donc, petit rappel, Sigma F, c'est une association qui accompagne les jeunes, là, les terminales, grâce à l'initiative Objectif Bac. Et en première partie, on abordait ensemble notamment l'origine du stress et l'appréhension des terminales face aux épreuves. On va désormais se concentrer un peu sur les différentes méthodes pour bien réviser son bac et surtout déstresser pour être plus serein lors de ses révisions et de ses épreuves. Séna et Véronique Le Gall, nous allons ensemble écouter à nouveau un micro-trottoir pour voir les différentes techniques d'apprentissage qu'ont choisi les terminales en ce moment et comment certains terminales arrivent à déstresser. On se retrouve tout de suite après pour réagir dessus.
Moi, c'est des astuces qui marchent pour moi, c'est de m'éloigner de tout ça. Après, ça peut arriver à la procrastination, mais je lis ou je fais autre chose, je passe du temps avec ma famille, etc.
C'est pas trop, j'ai pas trop d'astuces. Moi, je fais juste des fiches et puis après, je révise. En fait, en classe, j'apprends déjà pas mal, donc après, j'ai juste à relire et ça me revient.
Bah, j'ai révisé un chapitre pour l'instant, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé une vidéo, parce que notre prof, lui, diffuse des vidéos dans son cours. J'ai regardé la vidéo, j'ai fait une fiche et je suis allé dans un site avec des exercices et je les ai faits. Mais sinon.
Donc est-ce que c'est important les pauses quand tu révises, quand tu travailles?
Ouais, sinon je ferais rien en fait, je serais pas productive, je me connais. Si j'ai besoin de sortir 5 minutes et après me dire ok, je me remets au travail parce que sinon je suis pas efficace, j'ai plus la passion, tu vois. Et s'il y a pas de passion, il y a pas d'efficacité avec moi, je me connais. Voilà, no stress, j'ai envie d'être... J'étais une ancienne stressée, donc aujourd'hui je me dis... arrêtez de m'en faire. En fait, avoir une plus grande distance, en fait. Prendre de la distance, c'est ça. Et... Enfin, non plus, je m'en foutiste, hein. Il faut être mesuré. Mais oui, prendre de la distance, se dire que ça va aller, se faire confiance. Voilà. C'est très bateau, mais je sais pas quoi dire. Moi, j'ai plus une mémoire kinesthésique, donc en fait, j'ai besoin de bouger pour apprendre. Ouais. J'ai besoin de faire autre chose en même temps, d'écouter de la musique, etc. C'est comme ça.
LFM 95.5.
Alors, je vous ai vu pas mal hocher la tête et sourire toutes les deux. Qui veut commencer par réagir? Peut-être Sena?
Oui, du coup... Il y a plusieurs choses qui ressortent et j'ai l'impression de me reconnaître dans certains témoignages encore. Ce qui est ressorti, c'est les mots-clés qui m'ont fait donc un sourire, c'est vraiment donc, mémoire kinesthésique, des pauses, les vidéos visionnées, parce que du coup, en SES notamment, on visionne beaucoup de vidéos et ça peut être stressant d'être face à une vidéo, de devoir réécrire ce que la personne dit. Et ce qui a aussi marqué mon attention, c'est la confiance en soi qui est beaucoup ressortie, parce que je pense que c'est vraiment... En fait, c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Et notamment, le fait de connaître sa mémoire, c'est quelque chose qui est très important, je pense, parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas ma mémoire. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais une mémoire kinesthésique et orale. Donc, j'apprends en parlant et en marchant. Donc, plus j'ai appris à connaître ma mémoire, plus j'ai pu... être efficace. Et le fait de me dire les pauses, ça m'a beaucoup marqué, parce que finalement ce que je faisais, c'est que j'avais pas du tout de planning ni d'organisation quand je révisais avant, mais je me suis rendu compte que finalement le cerveau, on pouvait totalement le manipuler, c'est un mot un peu connoté négativement, mais je dirais un peu l'orienter vers le bon côté, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé des créneaux de 2 heures de travail loin du téléphone, parce que le téléphone, ça fait énormément perdre du temps et c'est impossible de travailler
avec. C'est vrai.
Je le range dans mon armoire 2 heures. Et entre ces 2 heures, du coup, par exemple, au bout d'une heure, 15 minutes de pause où je vais voir ma famille, où je vais faire autre chose, lire, respirer un coup. Et par la suite, je reprends encore une heure. Et au bout de ces 2 heures, je me mets une petite récompense, le fait de sortir ou quelque chose d'autre. Comme ça, le cerveau, il est motivé à atteindre. Enfin, mon cerveau devient motivé à atteindre la récompense et travaille de manière efficace. Mais en tout cas, ça doit être loin du téléphone et de manière... pas en termes de « Ah, en 2 heures, je devrais accomplir ça », mais plutôt en termes de tâches. Parce que quand on se fait un planning avec de 10h à 12h, je fais ça, et qu'on n'arrive pas à le faire, ça va plutôt être stressant.
C'est de la frustration, voilà. Aussi. Il y a de la frustration qui naît de ça. C'est vrai qu'on développera notamment, effectivement, le point des différents types de mémoire et comment chacun peut apprendre, parce que parfois, certains ne connaissent pas leur type de mémoire et c'est important de le connaître. Est-ce qu'on pourrait passer peut-être à Véronique Le Gall et vos réactions sur les micro-trottoirs?
Bah moi, oui, ça m'a fait sourire. Et effectivement, je pense que c'est important de savoir prendre... Il y a une jeune fille qui disait que savoir lâcher prise, c'est pas du champ footiste, mais il faut savoir lâcher. Et beaucoup disaient, moi, je m'octroie des pauses. Et oui, il faut s'octroyer des pauses, parce que sinon, le cerveau, il va saturer. Donc, il faut effectivement savoir prendre du recul par rapport à ses révisions, par rapport à l'examen en lui-même. Et puis, se dire, ça va aller, c'est se faire confiance. Ben oui, c'est ça aussi, tout est le secret est là. Hein, c'est la méthode Coué. Et je sais que la sophrologie a été aussi inspirée par cette méthode. Il faut être positif, parce que si on part perdant, c'est sûr que ça ne va pas aller. Et dans tout, dans la vie. Mais là, pour un examen, si on se dit, j'y arriverai jamais, c'est clair qu'on ne va jamais y arriver. Donc, il faut vraiment se faire confiance et se dire, ça va aller. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, une fois qu'on se connaît, on va capitaliser sur ses forces. Et là aussi, c'est la sophrologie, ça repose aussi là-dessus, c'est savoir se connaître. Parce qu'une fois qu'on a appris à mieux se connaître, on sait gérer et on va développer des capacités et s'appuyer dessus. Donc c'est tout à fait ça, c'est savoir connaître sa mémoire, la manière dont je travaille le mieux, c'est comment. Et une fois qu'on se connaît, on va pouvoir vraiment développer des capacités, et que ce soit apprendre en marchant et en lisant à voix haute ou en écoutant. Enfin voilà, chacun a son fonctionnement. Mais
alors justement, on va aborder ce sujet de mémoire et des manières d'apprendre. Quels sont les différents peut-être types de mémoire? Il me semble qu'il y en a 5.
Alors, il doit y avoir la mémoire auditive. Il y a la mémoire visuelle,
kinesthésique aussi, ce qu'on abordait.
Voilà, et puis il doit y avoir tout ce qui est les mémoires aussi, quand on réécrit aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est kinesthésique aussi, oui. Le fait d'utiliser son poignet, oui. Ou quelque chose qui permet de retenir. Effectivement, en fait, c'est... Là, on voit par exemple un jeune homme, on l'entend dire, qui regarde des vidéos. Donc c'est une manière aussi... Moi, je sais que quand je passais le bac, je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos parce que ça m'aidait, comme j'ai une mémoire auditive, de réécouter, de refaire des fiches par rapport à ce qui est dit, d'avoir des nouvelles informations, de compléter des choses qu'on connaît déjà ou pas. Donc je pense que c'est assez important. Séna, toi, tu nous disais que tu avais une mémoire kinesthésique, comme la jeune fille dans le micro-trottoir.
Oui, une mémoire kinesthésique, mais pas seulement. Une mémoire kinesthésique et auditive. Donc en fait, je dois parler pour m'entendre et je parle comme si je l'expliquais à quelqu'un. Et le fait de l'expliquer à quelqu'un, je pense que ça me permet beaucoup de me dire que voilà, enfin, même s'il n'y a personne, mais je fais comme s'il y avait quelqu'un, comme ça me met en confiance, je me dis, si je suis capable d'en parler à une personne qui n'en connaît pas, c'est que je connais mon sujet, et dès lors, je suis plus confiante et le stress disparaît, et ainsi de suite.
Et vous, Véronique Legal, quel type de mémoire vous avez ?
Alors moi, j'avais plutôt une mémoire effectivement un peu pareille, il fallait que je comprenne, je me disais c'est pas forcément du par cœur, mais il faut que j'arrive à comprendre ce que je lis, que ça ait un sens, et il faut que j'arrive à l'expliquer, si je devais l'expliquer à quelqu'un, comment je ferais, avec mes propres mots, comment je peux transformer mon cours, enfin, et voilà, moi je travaillais comme ça, alors un petit peu loin, mais je pense effectivement que j'essayais, je me parlais à moi-même, voilà, je lisais mon cours et puis après j'essayais de le dire d'une manière différente pour voir réciter. Si c'était bien ce que j'avais bien compris en tout cas.
Alors il y avait une méthode que j'utilisais aussi beaucoup, c'était de m'enregistrer en train de lire mon cours et puis de réécouter dans des moments, etc. Parce que oui, moi aussi c'est entre auditive et kinesthésique, donc j'avais aussi besoin de le dire à haute voix, de le raconter à quelqu'un, etc. Et d'où l'intérêt aussi parfois de faire des groupes, comme on disait en première partie, parce que ça nous permet voilà, de restituer des connaissances avec d'autres personnes. Et ça, c'est une très bonne technique. Quelles sont les différentes méthodologies qui sont utilisées à SigmaF justement ?
À SigmaF, donc les méthodologies sont différentes, je dirais, selon les phases dans lesquelles on se trouve. Par exemple, la phase numéro 1, qui est plutôt une phase de révision et donc de reprise des cours, des notions clés. Parce qu'objectif PAC, vu qu'on reprend toute l'année, on va plutôt se concentrer sur les notions clés. Les notions clés, par exemple en SES, on va plutôt reprendre le cours en 2 voire 4 heures pour pouvoir aller cibler les points clés. Un cours que les professeurs, par exemple, traiteront en... un mois et demi, on aura à le faire en 2-4 heures pour pouvoir cibler les notions clés. Et donc, ça sera plus de l'échange entre élèves, entre du coup intervenants, élèves en SES. Mais pour les matières plutôt scientifiques, ce qui va être mis en place, c'est le fait de faire des exercices. Le fait de faire des exercices et de poser les questions. C'est très important parce qu'en mathématiques, quand on a un blocage et quand on ne comprend pas un calcul, ou que ce soit en physique, on va bloquer. Mais à SigmaF, ce qu'on met en place, donc c'est d'abord un moment d'explication, pour pouvoir passer par l'étape justement de la compréhension, ensuite par l'étape de poser des questions, et ensuite l'étape de s'exercer, parce que c'est en s'exerçant qu'on voit si les deux étapes ont été acquises, et si on voit que pendant l'exercice il y a des erreurs, du coup on reprend, on fait une correction, on reprend les erreurs et on les note quelque part afin de faire en sorte que les élèves ne le refont plus.
Et de les retenir.
Voilà.
Parce que du coup vous adaptez un petit peu à chaque cas aussi, les erreurs de chacun, etc. pour avancer.
Voilà, c'est ça, des corrections individuelles sont en SES, c'est moins le cas parce que du coup c'est plus des notions clés comme je vous ai dit, de la dissertation, mais dans les matières scientifiques on a besoin donc de voir les cas par cas, les élèves envoient leurs devoirs à la personne qui intervient et la personne qui intervient jette un coup d'œil et si c'est nécessaire, donc voilà, soit on fait une correction groupée ou si on a remarqué qu'il y avait plusieurs erreurs qui revenaient, mais si c'est des erreurs individuelles, on va plus s'orienter vers l'élève pour lui dire écoute, ici il y avait ça, ce qui permet à l'élève de ne plus refaire l'erreur.
Alors justement, l'une des méthodes qu'on a entendues dans le micro-trottoir dont on parlait avant, c'était de s'accorder des moments de détente, des moments de pause, et il est prouvé justement que réviser en continu, c'est pas vraiment productif et que le cerveau a besoin de repos parfois, de moments de repos. Alors pourquoi c'est pas productif d'enchaîner les révisions sans faire de pause, Véronique Legal ?
Je pense qu'à un moment donné, il y a une saturation. Le cerveau ne peut pas rester concentré aussi longtemps. Et puis, il faut donc lâcher un petit peu pour penser à autre chose, faire complètement autre chose, s'octroyer justement des petites récompenses, se dire, bah voilà, je me donne, aujourd'hui je révise tel thème, enfin pendant, ce matin, il faut que j'aie fini ça, comme dans mes révisions, et puis se lâcher, il y a des moments où se dire, bon allez, je souffle, je vais me promener, ou je vais juste manger un petit gâteau et un carré de chocolat, se donner un peu de réconfort.
Un peu de sucre.
Un peu de sucre, parce que le cerveau, au bout d'un moment, il bloque.
Et c'est important. Ouais. Donc vous l'avez compris, il faut sortir, écouter de la musique, faire du sport, regarder Netflix aussi. Bref, faire des activités que vous aimez pour permettre un peu de faire relâcher la pression. Est-ce que justement, Véronique Le Gall, vous pourriez nous dévoiler des techniques de sophrologue pour justement calmer son stress pendant les révisions et les examens ?
Bah, je dirais, comme je l'ai abordé tout à l'heure, ce qui est important, c'est de respirer. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur sa respiration pour enlever le stress, pour se concentrer également. Donc, on peut commencer par une technique qui s'appelle la technique de la respiration carrée, c'est-à-dire qu'on va tout faire sur 4 temps. Donc, on va inspirer sur 4 temps. On retient sa respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on va expirer par la bouche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On expire. Et on reste en apnée vide sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et j'inspire à nouveau sur 4 temps. Je retiens ma respiration pendant 4 temps. Je souffle sur 4 temps. Je reste en apnée vide sur 4 temps. Déjà, ça va permettre de canaliser son esprit. Et puis, si on est un peu stressé, on a le cœur qui bat vite, le ventre un peu noué, en défocalisant son attention sur sa respiration, déjà de penser à autre chose et puis de s'apaiser, de se calmer.
Et ça ralentit le rythme cardiaque.
Ça ralentit le rythme cardiaque et ça permet également une meilleure oxygénation du cerveau. Et du coup, qui dit que si le cerveau est mieux oxygéné, il va mieux travailler. Donc, je dirais que vraiment, la respiration, c'est la base. Déjà, commencer à s'entraîner, à faire cette respiration sur 4 temps. On peut aussi mettre ses mains sur son ventre. Et puis essayer d'inspirer, d'envoyer l'air vers son ventre, de sentir son ventre qui se soulève. Et tout doucement, on souffle par la bouche le plus possible. Imaginez que son ventre est une vague. Et on inspire et on expire. Et pareil, se focaliser sur sa respiration. Je pense que c'est bien ça, de faire des petites pauses comme ça. Le soir aussi, avant de se coucher, lors de l'examen même, lorsqu'on a un petit moment de panique, se dire « allez ». Je pose tout, je pose mes mains sur mon ventre ou je me reconnecte à moi-même et je respire.
Prendre un peu de temps avant l'examen, il ne faut pas hésiter à faire ça. Parce que c'est vrai que ça peut être très fatigant aussi de se retrouver dans un examen, on n'a pas beaucoup dormi, etc. On est stressé, donc ne pas hésiter à prendre un temps justement pour le faire.
Oui. Et puis on peut aussi, quand on sent qu'on a des petites tensions un petit peu, c'est pareil, on inspire, on bloque sa respiration et on va contracter tout son corps. Tous ses muscles, on serre, on serre ses poings, on serre les muscles de tout son corps, de la tête jusqu'au bout des pieds, on serre. Et puis on souffle fortement par la bouche. Pour enlever un petit peu.
Et on relâche tout.
Oui, on relâche tout. Comme ça, comme si on imagine qu'on veut emprisonner toutes ces petites angoisses, là, hop, on les serre fort et on les souffle par la bouche. Et on le fait ça plusieurs fois et ça peut également permettre d'enlever les tensions et de relâcher un peu tout le corps.
Et pour toi, Sena, c'est quoi les techniques pour optimiser un petit peu les révisions, les temps, le stress, enfin un peu tout dans ce cadre-là?
Oui, du coup, déjà par rapport au micro-trottoir qu'on avait entendu, donc on avait beaucoup parlé de faire des fiches. Donc faire des fiches, pour moi, ça devenait un peu stressant parce que j'avais l'impression de réécrire mon cours. Donc ce que je peux conseiller, ce sera plutôt de ne pas forcément faire des fiches où on fait des phrases, etc., mais faire du mind-mapping, ce qui m'a sauvé la vie en terminale et qui me sauve toujours la vie donc, dans les études supérieures. Faire du mind-mapping, ça permet de travailler la partie créative du cerveau, donc on se sent plus... Du moins, moi, je me sens beaucoup plus créative quand je fais du mind-mapping que quand je fais des fiches sur des fiches où je réécris. Donc, faire du mind-mapping, comprendre. Et par rapport à la gestion du temps, il faut déjà savoir si on est plus confortable le matin pour apprendre ou le soir. Parce que moi, je suis une personne du matin. Donc, par exemple, je me lève tôt pour...
C'est important de le connaître, effectivement.
Pour avancer dans... Par exemple... savoir quand on est le plus productif, si c'est avant de manger, après manger, donc vraiment se connaître, ça sera le point clé pour savoir donc comment faire ses fiches et comment travailler à quel temps de la journée.
Effectivement, il y a plusieurs moyens de faire des fiches. Tu parlais du mind mapping, j'explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est de faire un petit peu comme une fleur, on va dire. On met le thème principal au centre et puis après, on continue à faire comme un peu des pétales, on lit les idées, etc. Comme tu disais, ça peut lier aussi avec la créativité parce qu'on peut dessiner dessus, etc. Donc, on vous conseille vraiment de vous renseigner sur ça parce que c'est une très chouette manière d'apprendre son cours. En tout cas, merci beaucoup Véronique Le Gall et Sénatas Guin pour vos interventions. Pour terminer l'émission, on va aborder les phrases et remarques qui concernent les jeunes et qui peuvent vous énerver toutes les deux. Donc on va commencer tout de suite. Alors, du coup, Véronique Le Gall et Sénat Tasguin, est-ce que vous pourriez nous dévoiler un petit peu les phrases que vous entendez sur les jeunes et qui vous énervent foncièrement ?
Moi, quand j'entends, oui, les jeunes ne sont pas motivés ou ils ne se sentent pas concernés, je suis pas d'accord parce que je trouve au contraire qu'ils se mettent beaucoup la pression. C'est que s'ils se mettent la pression, c'est qu'ils sont... Enfin, on a bien entendu là dans tous vos micro-trottoirs quand même qu'ils se mettent une pression de dingue pour l'examen. Donc, c'est qu'ils se sentent concernés, qu'ils sont impliqués. Donc, on peut pas dire ça. Et je trouve que c'est vraiment réducteur de dire que les jeunes s'intéressent à enfin, ne font rien, ne s'impliquent pas. Parce que là on a la preuve que ce n'est pas le cas.
Et pour toi, Sénat ?
Moi, je dirais que c'est plutôt la notion de responsabilité des jeunes. Dans l'imaginaire collectif circule l'idée que les jeunes ne sont pas responsables, ne peuvent pas prendre des charges, etc. Mais finalement, c'est vraiment caricatural, je dirais, parce que j'ai connu plusieurs jeunes qui, en même temps que leur terminale, étaient en train de travailler à côté et avaient aussi des responsabilités individuelles. Donc, j'étais admirative de ces jeunes. Donc, moi, en terminale, par exemple, je ne travaillais pas. Mais quand je vois que... Il y a des générations suivantes qui prennent plus de responsabilités. Je me dis qu'en fait, la notion de responsabilité, elle change de génération en génération et surtout donc, d'âge en âge. Donc, se mettre à la place des jeunes avant de parler... Enfin, parler de responsabilité en se mettant à la place des jeunes, ce sera beaucoup plus moins normatif, je dirais, que juste parler et dire qu'ils ne sont pas responsables.
Merci beaucoup en tout cas Véronique Le Gall et Sénat Tasguin pour vos interventions et d'être venus sur LFM Radio pour participer à cette émission, on en parle. Avant de se quitter, je voulais vous informer que la semaine prochaine, on se retrouve dans On en parle toujours le jeudi à 11h pour un sujet spécial culture. En attendant, vous pouvez me retrouver samedi à 11h dans Expression Directe, l'émission qui donne la parole aux 10-25 ans. N'hésitez pas à rester à l'écoute pour la pause actu d'Akima de midi à 14h et retrouvez également Alice à 16h, de 16h à 19h dans le live. Merci encore Véronique Le Gall et Sénat Tasguin pour vos interventions.
Merci.
Et puis à une prochaine fois. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
On en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45
sur LFM.